Marie-Claire, chère Marie-Claire, merci infiniment pour cette présentation. Aussi chaotique que sympathique, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. En tout cas avec moi. Peut-être pas avec Alexandre Gady, mais avec moi. Hein. Mon ami Gady, qui s'est laissé pousser la barbe, paraît-il. Hein. Bref, voilà. Et merci de me donner l'occasion de revenir sur ce sujet qui avait été le mien il y a presque un an, ce modèle noir de Géricault à Matisse, exposition que certains d'entre vous ont sans doute vue, et que je vais non pas reparcourir, mais réexaminer en me centrant, en me concentrant sur le tableau qui m'était le plus cher dans l'exposition et qui servait à la fois de point de mire, de point de convergence. Il était un petit peu à l'épicentre de l'exposition. Il s'agit bien sûr d'Olympia. L'entrée même de l'exposition signalait que le regard que nous souhaitions porter sur le tableau de Manet, éminemment connu, était légèrement décentré. Il ne s'agissait plus simplement de s'occuper de cette jolie prostituée posée par Victorine Meurent, j'y reviendrai bien sûr, mais de s'intéresser au personnage de la servante, au personnage de la servante noire, qu'il est possible sans doute d'identifier, puisque les carnets de Manet nous donnent un nom, le nom d'une négresse, c'est le terme qu'utilise Manet, 11 rue Vintimille, dans le 9e arrondissement, pas très loin de Clichy, des Batignolles, de Pigalle aussi, ces endroits fréquentés par Manet et bientôt les impressionnistes. Cette Laure était modèle, effectivement. Elle avait sans doute d'autres activités, d'autres occupations professionnelles. Et il semble que la communauté des historiens de l'art, sans vraiment d'ailleurs qu'on en ait la preuve formelle, désormais est décidé d'identifier la jeune femme noire du tableau de Manet comme étant Laure, comme étant cette Laure, L-A-U-R-E. Je ne vous mentais pas, le tableau était bien dans la perspective royale de la première salle de cette exposition, et c'était notre volonté que les spectateurs, en se promenant de salle en salle, ne perdent jamais de vue Olympia ou ses avatars, puisque j'y reviendrai en fin de séance. Olympia a suscité non seulement des réactions très vives en 1865, mais l'envie, le désir chez d'autres artistes de rendre hommage à l'image, de se l'approprier, comme on le dit, depuis le XXe siècle. Et vous verrez que chaque appropriation est une nouvelle lecture. Alors, je dois dire que ce commissariat à quatre, vous avez raison Marie-Claire, je n'étais que co-commissaire, fut à la fois une expérience intéressante et un peu douloureuse, comme tout commissariat où les points de vue finalement s'opposent ou simplement ne fusionnent pas complètement quant à tous les aspects du projet envisagé. Et sur la question de la signification qu'il faut prêter à la présence de l'or, appelons-la comme ça, dans le tableau, nous avons eu des débats, comme nous avons eu des débats sur la nécessité de rebaptiser les tableaux qui portent des titres qui aujourd'hui nous semblent condamnables, puisqu'ils renvoient à un imaginaire anthropologique, à une période qui était celle de la traite ou des colonies. Vous savez que notre époque est devenue très, très sensible, plus que sensible même, sur ces questions, comme on dit, et la société civile se manifestant de manière de plus en plus violente, les musées sont obligés de tenir compte du danger auquel on s'expose aujourd'hui quand on aborde ces mêmes questions. Raison pour laquelle Laurence Descartes, auprès de laquelle je travaille donc, avait pris la décision de rebaptiser une quinzaine d'œuvres. Je vais vous montrer la plus célèbre d'entre elles. Et il s'est trouvé un article, je crois, dans le Guardian, qui est un journal de Londres qu'on classerait à gauche, et pour dire que nous avions rebaptisé le tableau de Manet, qui ne s'appelait plus désormais Olympia, mais Laure. comme si, désormais, nous souhaitions attirer non seulement l'attention sur cette partie-là du tableau, mais presque signifier que cette présence, au fond, est la plus lourde de sens dans le projet esthétique de Manet et dans la lecture que l'on peut en faire. Autant vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette position et que, bien sûr, le tableau a conservé son nom. L'autre avantage de situer Manet et Olympia, donc tableau exposé en 1865, j'y reviendrai, dans cette perspective longue qui va de la Révolution française à l'époque de Matisse, voire même au-delà, c'était de rappeler que Manet n'est pas simplement l'inventeur de la modernité, comme on aime à le dire, ou l'inventeur du moderne, comme Guy Cocheval avait baptisé mon exposition de 2011, mais qu'il est aussi l'enfant du siècle, l'enfant d'un siècle qui voit l'abolition de l'esclavage, par exemple, qui voit le retour de Marianne en 1848, qui voit aussi d'autres secousses politiques et d'autres mouvements de la société civile dans un cadre donc qui est sans cesse en évolution. Le fait que la carrière de Manet débute au moment où la Seconde République abolit l'esclavage, donc en avril 1948, n'est bien sûr pas indifférent quant à la lecture que l'on peut faire d'Olympia, puisque même si je peux, et vous le verrez, émettre des réserves quant à la position de certains de mes collègues anglo-saxons à propos d'Olympia, on ne peut plus, et du reste l'histoire de l'art n'a jamais négligé, évacué cette présence noire dans le tableau de Manet. Quelques rappels tout de même avant de revenir à Manet lui-même pour situer un peu le cadre dans lequel ce jeune homme, il est né en 1832, mais il est aussi le fils de son père, ce jeune homme s'est formé, non seulement sur le plan esthétique, mais sur le plan des idées politiques et sur la vision même de la société, puisque, vous le savez sans doute, de même que on avait envoyé le jeune Baudelaire à La Réunion pour l'arracher aux turpitudes parisiennes, eh bien, Manet, qui croisera Baudelaire au début des années 1860, avant même de se découvrir une passion et surtout une profession du côté de la peinture, avait été envoyé sur les bateaux pour passer, pour devenir marin. Et cette expérience importante, profonde, eh bien, l'a conduit à découvrir l'autre monde, et notamment à travers une escale au Brésil, le monde de l'esclavage. En deux mots donc, puisque l'abolition de l'esclavage en 1848 ne fait que confirmer un mouvement qui est né un demi-siècle plus tôt, c'est-à-dire pendant la Révolution française. L'exposition d'ailleurs débutait par la confrontation entre les deux décrets d'abolition, celui de février 1994 et celui d'avril 1948, sur lequel il y a un an, jour pour jour, non pas tout à fait jour pour jour, mais il y a plus d'un an, mais le président Macron a insisté, fêtant les 70 ans donc, de l'abolition du décret d'abolition de 1848. Premier décret en février 1994, dans le climat que vous connaissez, qui est le climat de la terreur. Donc décret marqué par l'esprit de l'an 2. Il s'agit finalement de concéder l'égalité civique à tous les ressortissants du territoire français. Les Antilles s'étaient soulevées dès 1789, en 91 de manière plus marquée, et surtout en 93, le fameux été 93, un véritable bain de sang se répand à Saint-Domingue, et les esclaves s'affranchissent et occupent, dominent une partie de l'île. On envoie un représentant de la République, un certain Santonax, devant la gravité de la situation, il déclare lui-même, avant même que Paris ne le confirme, l'abolition, l'affranchissement des esclaves et des Antillais, appelons-les comme ça. C'est le moment où un certain Toussaint Louverture, après s'être battu, Toussaint Louverture, c'est un personnage particulièrement paradoxal, puisqu'avant de devenir ce qu'il est toujours, le symbole même de la révolte des Noirs, il a été un propriétaire terrien important, il avait des esclaves noirs, et il a d'abord combattu contre la République, avant de la rallier. La biographie, l'évolution de Toussaint Louverture mériterait une séance à elle seule. Ce qu'il importe de retenir, c'est que Paris est confronté, le Paris de la Révolution, est confronté à une situation nouvelle très embarrassante. D'un côté, elle confirme le mouvement de la sensibilité des Lumières, car depuis, dès avant la Révolution, et notamment au sein de la Société des Amis des Noirs, certains intellectuels, parmi les plus grands, militent pour l'abolition de l'esclavage. Abolition progressive, bien sûr, à l'époque. Il ne s'agit pas de libérer les esclaves brutalement et de réduire à la misère, si je puis dire, l'île de Saint-Domingue, notamment, qui constituait dans l'économie française un levier très important. Il s'agit de sortir progressivement de l'esclavage en indemnisant les propriétaires et en redonnant aussi aux esclaves affranchis le moyen de survivre sur ces terres. Voilà, c'est un problème très complexe qu'on réduit aujourd'hui par idéologie à quelque chose qui relèverait des droits de l'homme. C'est beaucoup plus complexe que ça et la Révolution, malgré sa générosité, est aussi préoccupée par la situation économique du pays et la situation des propriétaires de Saint-Domingue que, bien sûr, de cette égalité civique qu'elle donne donc aux Noirs de France, comme le dirait Thuram, en 1794. Et l'iconographie, les artistes vont immédiatement réagir à cette situation. Certains vont intégrer la guerre d'indépendance dans leur iconographie et réagir plus tard à travers d'autres images à l'évolution politique l'évolution politique des Antilles, puisque dès 1802, vous savez, Bonaparte va rétablir l'esclavage et tenter, en envoyant son beau-frère, général Leclerc, eh bien, de reprendre possession de l'île. Entre les deux surgit une image sur laquelle il faut s'arrêter, car elle symbolise beaucoup de choses. Elle symbolise beaucoup de choses. Elle était d'ailleurs accrochée dans la première salle de l'exposition. Elle est devenue très célèbre grâce à des chanteurs de rap qui en ont fait une de leurs icônes. Mais elle était déjà très célèbre avant même que le show business s'en empare, puisque ce tableau a été perçu comme un chef-d'œuvre dès son exposition en 1800 au Salon. Il est l'œuvre d'un peintre femme, c'est une femme qui en regarde une autre, et non des moindres, puisque Marie-Guillemine Benoît avait connu l'atelier de Vigée Lebrun, ma chère Vigée Lebrun, et l'atelier de David, excusez du peu. Elle était proche de Giraudet. Elle appartient à cette élite libérale qui va traverser la Révolution, l'Empire. Comme c'est une femme qui va finir par se marier, elle va abandonner les pinceaux pour devenir une épouse docile, ce qui fait bien sûr aujourd'hui ce qui nous surprend et nous irrite beaucoup, notamment parce qu'il s'agit d'un artiste de premier plan. Elle aura quand même eu suffisamment de temps pour produire quelques chefs-d'œuvre, notamment dans le domaine du portrait. Et quand on regarde sa production, puisqu'elle expose au Salon à partir de la Révolution, elle est, cette production, largement faite d'études de femmes, de portraits de femmes. Et certaines d'ailleurs de ces études ne portent pas de nom. Il s'agit pour elle simplement de fixer une individualité dans les termes de la peinture moderne, puisque le langage davidien autour de 1800, c'est résolument moderne. autant que Lautrec un siècle plus tard. Voyez le tableau, vous le connaissez bien sûr, et il apparaît au salon comme sous le titre qui nous semble, en tout cas, qui semble aujourd'hui inacceptable, de portrait d'une négresse. C'est un peu une contradiction dans les termes. Le portrait appelle finalement l'identification du modèle. Nous ne savons pas finalement, ou du moins les visiteurs du salon en 1800 ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les recherches ont permis de donner sinon un nom, du moins un prénom à cette très belle jeune femme. Et pendant l'exposition, le tableau a été exposé comme le portrait de Madeleine. Ce qui est un peu un paradoxe, puisque Madeleine, c'est bien sûr pas son nom, c'est son prénom d'esclave, d'ex-esclave, puisqu'elle avait été affranchie pour entrer dans la domesticité du beau-frère de Madame Benoît. Et il se trouve donc que Madame Benoît a peint ce tableau, qui va entrer d'ailleurs dans les collections du Louvre sous la Restauration. Ce qui est un signe de l'intérêt qu'on portait à l'image et du symbole déjà que cette image constituait. Car toute l'exposition d'Orsay, sans méconnaître le contexte anthropologique, racial, voire raciste de l'époque, tendait à montrer que l'approche du sujet noir, l'approche de l'altérité africaine, se transforme, bien avant le XXe siècle, bien avant Picasso et Matisse, à qui on prête d'avoir tout libéré, les formes comme les sujets. Eh bien non, tout au long du XIXe siècle, l'approche du sujet noir se transforme jusqu'à devenir, c'est ce que j'avais écrit à l'époque, positif. Nous allions contre, nous cherchions à aller contre dans cette exposition, l'idée que le XIXe siècle s'était contenté de véhiculer les stéréotypes les plus haïssables sur la population noire. Il n'en est rien, et d'emblée, au fond, dès le seuil du XIXe siècle, au salon de 1800, donc, Madame Benoît nous propose, quand bien même son image est ambiguë, puisqu'elle ne porte pas de nom et qu'elle représente de façon dévêtue son sujet, une approche qui me semble, au regard des stéréotypes, au regard de l'iconographie raciale et raciste, une sorte d'avancée. Notez non seulement la façon magnifique dont Madame Benoît exalte la beauté même du modèle, la gravité, la solennité même de l'expression du visage, le turban à la manière de Raphaël et de Vigée Lebrun, et puis également le souci d'exotiser, dans le bon sens du terme, son sujet exotique, et j'emploie ce terme parce qu'il me semble commode et neutre, les bijoux, l'anneau à l'oreille, on va retrouver de tels accessoires dans Olympia, et les couleurs nationales, bleu, blanc, rouge. Nous sommes en 1800, au moment où ces femmes, ces hommes, il y en avait encore très peu dans Paris, quittent la condition d'esclave pour entrer dans une condition qui nous semblerait aujourd'hui servile, qui est celle des domestiques, des comédiens, puisque on le sait mieux depuis l'exposition, les modèles des artistes dont l'exposition sur lesquels l'exposition tentait de renseigner le public, ces modèles avaient des activités qui allaient justement de la nounou jusqu'à la trapéziste, de la comédienne jusqu'à l'actrice. C'est dire que non seulement l'approche en peinture gagne en positivité, mais que ces hommes et ces femmes, après avoir quitté qui l'Afrique, qui la Réunion, qui les Antilles, entraient dans le tissu parisien et y faisaient souche. À droite, un tableau célèbre, parmi les plus beaux de Géricault, c'est ce tableau du Getty, réintitulé Portrait de Joseph, mais vous voyez bien que nous sommes là dans une zone un peu dangereuse, puisque en intitulant autrement les tableaux, on leur prête une signification un peu différente et plus accordée au fond à nos attentes, peut-être, qu'aux intentions des artistes eux-mêmes. Il ne s'agit pas pour Théodore Chassériau de faire le portrait de Joseph, en tant que tableau exposable sous ce titre. Il s'agit de faire poser Joseph, modèle dont il se rapproche, d'après les biographes de Géricault, à des fins proprement artistiques, puisque, on le sait, ce tableau est lié à au grand projet du radeau de la Méduse. Tableau qui n'était pas présent dans l'exposition, il ne l'était qu'à travers une étude et une esquisse, laquelle esquisse d'ailleurs ne montrait aucune présence noire, et c'est en cours de route, au moment où, après la chute de l'Empire, autour de 1916-1917, la question de la traite et de l'abolition redeviennent d'actualité, que Géricault, en bon libéral, mais aussi en bon stratège, fait entrer le sujet, un sujet d'actualité, dans sa peinture, à travers ce tableau inouï, qui est à la fois, bien sûr, un des socles du romantisme, mais aussi une image d'actualité, laquelle, à la différence de l'esquisse que je viens de mentionner, comporte trois présences noires. L'une des plus célèbres a fait l'objet de ce fameux dos, qui est aujourd'hui à Montauban, un dépôt du Louvre, dos qui est d'ailleurs une sorte de torse du belvédère, vous savez, cet antique inouï des collections romaines, des collections du pape, inversé. C'est intéressant parce que vous allez voir que d'autres artistes au cours du 19e siècle et du 20e siècle vont jouer sur cette symétrie du blanc et du noir, finalement pigmenté de noir, un modèle blanc. C'est ce que fait Géricault ici en utilisant le torse du belvédère et en le convertissant donc à la négritude qu'il cherche à défendre. Le mot nègre, le mot négritude, mot que j'utilise, d'abord parce que au XXe siècle, Senghor, Césaire utilisent ces mots et qu'il me semble utilisable précisément parce que ils ont été utilisés par les grands représentants de la cause noire au XXe siècle. Et parce que c'est aussi dans ces termes-là que les amis comme les ennemis de la cause de l'abolition ou de la cause noire, eh bien, désignent ces hommes et ces femmes. Encore un rappel avant d'en venir à Manet, mais ce rappel-là est aussi important puisque c'est progressivement, sous la Restauration, on finit par l'oublier, qui fut un moment très libéral de l'histoire politique française, mais aussi sous la monarchie de Juillet, que non seulement un certain nombre de décrets cherchent à améliorer la situation des colonies et des esclaves, puisque le décret de 1802 est toujours en vigueur, l'esclavage a été rétabli depuis 1802, mais toute une partie de la société civile, des intellectuels, les plus grands, comme les plus obscurs, les plus grands, Lamartine, qui considère que, en tant que libéral et en tant que chrétien, que la liberté de la créature de Dieu, comme il l'écrit, est inaliénable. Et il se bat pour l'abolition de l'esclavage tout au long des années 1830-1840. Et la République va faire de lui un homme, un ministre, et il va donc connaître la réalisation de ses vœux, puisque, vous le savez sans doute, Victor Schœlcher, attaché au gouvernement de la République de 1848, au nom de son ministre, va mettre fin à l'esclavage sur tous les territoires de l'Empire. Et c'est ce que certaines images vont fixer, immortalisé autour de 1848. C'est peut-être l'intention secrète de Puvis de Chavannes dans ce tableau que nous avons, que le musée d'Orsay avait acheté sans trop savoir quelle pouvait en être la signification. Et en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que la tradition familiale, les Puvis de Chavannes sont encore très présents et ils cherchent par tous les moyens à défendre la mémoire du grand artiste, dans la famille, on aimait à dire que ce tableau avait été peint sous la pression des événements de 1948. Et si je vous le montre, c'est que Puvis de Chavannes est passé dans l'atelier de couture avant Manet, quelques années avant Manet, et il me semble qu'il y a quelque chose de Manet dans le tableau de ce jeune homme à l'épée, qui porte un chapeau rouge, comme le bonnet phrygien. Cette épée, c'est l'épée des affranchis également. Il y a sans doute dans ce tableau, sans vraiment qu'on en soit sûr, une allusion au combat des abolitionnistes, voire même au décret d'abolition d'avril 48. Et puis, le tableau de Biard, que certains nous ont reproché d'avoir montré, puisque une partie de la recherche, l'équivalent des Black Studies américaines en France, continue à penser que, au fond, l'abolition de l'esclavage en avril 48 n'avait pas changé grand-chose à la condition des Noirs, puisqu'ils étaient toujours, finalement, ils étaient toujours liés à la condition servile à travers, la vie coloniale. Notre propos était un tout petit peu différent. Il nous semble au contraire que de décret en décret, c'est la société française qui mûrit et qui se prépare donc à en finir définitivement avec les conditions d'existence dans lesquelles les populations noires étaient condamnées à vivre. Le tableau de Biard est une commande de la République comme le dirait Françoise Vergès, sur le mode du don et de la dette. On voit un représentant de la Seconde République qui désigne le drapeau tricolore, cher à Lamartine, et puis à gauche, au centre de la composition, des hommes et des femmes qui expriment leur gratitude ou leur liesse. Tableau qui a été longtemps célèbre, qui a été reproduit dans le livre d'histoire, dans le Larousse, avant de disparaître, devenant finalement l'image d'une république paternaliste, d'une image aussi où les républicains faisaient silence sur la réalité coloniale qui persistait et, bien sûr, sur le combat des Noirs eux-mêmes, puisque, je l'ai rappelé, dès 1791-93, ils avaient pris leur destin en main. C'est pour ça que j'ai parlé du don et de la dette, pour citer Françoise Vergès, et il me semble effectivement que c'est une bonne formule pour résumer le tableau. Mais au-delà de ça, tout de même, c'était une image qui fixait une grande avancée dans la législation, dans le rapport entre la capitale et l'Empire, et également dans le rapport entre les individus. Car si l'image des Noirs a pu changer au cours du XIXe siècle, c'est que ces hommes, ces femmes, ont eu la possibilité de se transporter, de vivre dans la capitale, d'en vivre en tout cas en France hexagonale, et aller à la rencontre des artistes eux-mêmes. C'est aussi parce qu'il y a eu rencontre entre le modèle et l'artiste que l'image qui en résulte a pu se modifier. Et on peut le dire également de Baudelaire et Manet. Baudelaire, je l'ai dit, séjourné à la Réunion, cela a laissé des traces, c'est pas notre sujet, ça pourrait l'être, cela a laissé des traces dans Les Fleurs du Mal et dans quelques poèmes du jeune Baudelaire où la créolité à la fois s'exotise, s'érotise, se charge de nostalgie. Manifestement, il a dans les îles des émotions et des émotions de cet ordre-là, et Les Fleurs du Mal en sont à jamais marquées. Et sans doute que cette expérience de la Réunion l'a préparé à vivre cette passion très étrange, très belle aussi, très fidèle à sa manière, avec Jeanne Duval, laquelle était originaire de Saint-Domingue. On ne sait pas grand-chose de Jeanne Duval, on ne sait même pas si le nom de Jeanne de Duval est la meilleure manière de la désigner, mais elle aussi a droit à un cycle entier, l'un des plus beaux, dans Les Fleurs du Mal, et quelques-unes des pièces condamnées de 57 ont Jeanne pour sujet et pour horizon érotique. Manet lui-même a fait l'expérience de l'altérité très tôt à travers cette expérience de la marine, Il n'est pas excessif de voir dans le portrait qu'il fera plus tard de Jeanne Duval, portrait fracassant qui est aujourd'hui au musée de Budapest, une manière pour lui également de synthétiser toutes sortes d'expériences, le souvenir de rencontres qui l'ont marqué à jamais. On en a une preuve. Elle est à la fois très précieuse et très émouvante. C'est que ce jeune homme qui prend la mer à 16-17 ans, nous sommes en 1848-49, la France vient de voter massivement pour Louis-Napoléon Bonaparte, contre Lamartine, contre Cavaignac. Louis-Napoléon Bonaparte détient un record jusqu'à aujourd'hui. C'est le président de la République qui a mobilisé sur lui le plus grand nombre de votants. Et vous savez que depuis quelques mandats, nos présidents ne sont pas élus, ne sont pas les élus, si je puis dire, d'une majorité identique, disons-le comme ça. 48-49, il a 16-17 ans, il prend la mer et il écrit à ses parents. Et cette correspondance est bien sûr pour nous pain béni, puisqu'on y apprend qu'il donne des cours de dessin aux officiers, qu'il dessine, qu'il croque ses compagnons de route, qu'il est perçu justement comme le crayon du bateau. Le bateau d'ailleurs porte un nom prédestiné, le Havre et Guadeloupe. Le Havre et Guadeloupe. C'est un bateau sur lequel on forme ceux qui ont échoué au concours de naval. C'est un peu le tour extérieur des hauts fonctionnaires. En général, ce sont d'ailleurs des enfants nés dans les milieux de la haute bourgeoisie, comme Manet. Et d'ailleurs, il va croiser Manet, le futur mari d'une des sœurs de Berthe Morisot. Vous voyez, le monde est tout petit. Et on apprend également que lorsque le bateau relâche au large de Rio de Janeiro, il fait l'expérience donc d'une société esclavagiste. Elle l'est encore. Et il en parle dans sa correspondance avec l'indignation d'un homme de 48, car il est issu d'une famille très, très 48-art, en tout cas très républicaine, qui a sans doute voté pour Cavaignac et non pas pour Louis-Napoléon Bonaparte. Et il parle de ces négresses, de ces nègres, abrutis dans l'esclavage, dit-il. Les mots sont très durs. Il faut les retenir, car ils vont nous permettre peut-être de retrouver dans le tableau d'Olympia, quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, au fond, l'ambiguïté même de son rapport au monde de l'esclavage, aux populations noires. N'oublions pas que certains des abolitionnistes les plus radicaux ne croyaient pas dans l'égalité des races. Certains des abolitionnistes les plus combatifs du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, Schœlcher lui-même, Voltaire lui-même, ne croyaient pas à l'égalité des races. Nous sommes encore dans un monde qui se construit, dans un monde où les populations, les ethnies se regardent, s'évaluent et se définissent dans une sorte d'opposition, opposition variable, mais qui est bien réelle. On fait encore une lecture raciale de l'histoire de l'humanité. Cette lecture raciale peut être raciste, mais elle ne peut n'être que raciale. Pensez à ce que plus tard écrira Lévi-Strauss sur ces questions-là. Au XIXe siècle, c'est encore plus aigu. C'est encore plus aigu. Et même chez un garçon républicain, manifestement, d'après sa correspondance, préparé à rejeter l'esclavage et à le condamner, comme il le fait dans sa correspondance de jeunesse, on ne sait pas grand-chose de plus sur les sentiments qu'il a pu éprouver au contact de ces populations noires. Il dit aussi à sa mère que certaines de ses négresses sont laides, que d'autres sont jolies. Il parle de leur coquetterie. Bref, il laisse à l'historien un certain nombre d'éléments à partir desquels il faut pouvoir tenter une lecture équilibrée d'Olympia, le tableau de 1865. Le voilà, l'objet du délit. Du délit sale, puisque une des choses qu'on a pu reprocher à ce tableau, qui aurait au fond sacrifié à toutes les formes de réalisme, c'est que la couche d'Olympia n'est pas très propre. Donc c'est un mauvais jeu de mots, je vous l'accorde, mais il y a effectivement un lit sale dans cette affaire. Le tableau est un de ceux sur lesquels Manet a le plus travaillé. Manet n'est pas du tout un peintre à la prima, quelqu'un qui invente ses sujets, invente ses tableaux dans l'instant de l'inspiration. Non, il travaille ses sujets, il les mûrit, il les pétrit de références. Vous le savez sans doute, une des références les plus évidentes d'Olympia, c'est la Vénus d'Urbino, du Titien. Françoise Cachin, en 1983, avait écrit que personne en 65 parmi la critique n'avait perçu la référence. Depuis, on a travaillé et on a trouvé effectivement des critiques qui ont perçu cette référence au Titien, référence qui d'ailleurs semblait aussi condamnable que la façon dont Manet l'avait traité. D'une certaine manière, le scandale, car il y a eu scandale, un scandale considérable, le scandale que provoque Olympia en 1865, vient du fait qu'il fait entrer une forme de réalisme qu'on dira à l'époque brutale, presque sauvage et barbare, dans le cadre de la grande peinture, c'est la référence à Titien, et également dans l'espace qui était jusque-là, le nu féminin, dévolu à l'idéal. Le nu féminin, depuis la Renaissance, c'est avant tout l'espace de la peinture idéale, l'espace du beau idéal. Et voilà que Manet retourne toutes les cartes, redéfinit entièrement non seulement la figuration du nu féminin, mais dévoile aussi un aspect scabreux de la vie sociale, la grande prostitution. Imaginez donc l'espèce de secousse que les visiteurs, que la critique, que l'administration impériale ont pu éprouver devant un tel tableau. Du reste, il semble que dans un premier temps, le jury ait repoussé et Olympia et le Christ aux anges du Met, et puis se ravisant, preuve d'ailleurs que le régime et le jury du salon également se libéralisaient au mi-temps des années 60, les tableaux sont repêchés et montrés. Ils suscitent le Christ d'ailleurs, comme Olympia, un scandale mémorable. Mon sujet n'est pas le tableau lui-même, bien sûr, mais il fallait d'abord vous présenter la chose et rappeler que Manet lui-même, dès le poème, l'extrait de poème qu'il cite dans le livret du Salon de 1865, attire notre regard sur l'espèce de dialogue que le tableau institue entre la blanche et la noire, entre la grande prostituée blanche et la servante noire, puisque le poème de Zacharias Truc, c'est un poète, c'est un sculpteur, un artiste, mais c'est aussi un grand critique d'art. Une exposition va lui être consacrée en Allemagne l'année prochaine. Manet a fait son portrait. Il est très lié à Zacharias Truc, notamment depuis que Zacharias Truc, en 63, au moment du Salon des Refusés et du premier scandale que la peinture de Manet a occasionné en montrant donc le déjeuner sur l'herbe, Zacharias Truc avait dit que Manet était le grand frisson. Il avait appliqué d'une certaine manière à Manet la formule que Victor Hugo avait appliquée en 57 aux Fleurs du Mal. Il apportait un frisson moderne donc, à l'art du temps. Et Emanet va chercher, dans une pièce à l'époque inédite de Zacharia Struc, deux choses. Sans doute le titre d'Olympia, il serait de l'invention d'Astruc, il viendrait d'une pièce d'Astruc abandonnée, c'est le fruit de recherches récentes d'une de mes collègues américaines, et puis il cite ce poème qui se présente comme la fille des îles. La fille des îles. Alors c'est intéressant si vous avez le courage de relire la notice, la très belle notice que Françoise Cachin rédige dans le catalogue de 1983, dans l'exposition, la grande exposition Manet du Grand Palais. Et Françoise Cachin se demande pourquoi Manet est allé chercher d'aussi mauvais vers et pourquoi il s'est senti obligé de faire imprimer dans le livret du catalogue ce mauvais poème exotique, comme s'il n'avait pas compris Manet lui-même que son tableau n'avait rien à voir avec l'exotisme de Pacotille, avec cet orientalisme, finalement cette sensualité de bazar. Mais c'est là où, me semble-t-il, une dimension du tableau lui échappait, car Manet, au contraire, a non seulement, en citant Astruc, obligé le spectateur de 65 et le spectateur que nous sommes aujourd'hui à prêter attention à la figure noire, mais encore, à travers cette citation ironique, le poème est ironique, prendre à revers toute une iconographie orientaliste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous avez vu l'exposition, le tableau de Manet était enveloppé en quelque sorte par des tableaux de Chassériau, de Jérôme, de Bénouville, toutes sortes de scènes où le corps des blanches et des noirs était mis en scène d'une façon beaucoup plus complaisante que Manet ne le fait en 1865. Lisons ensemble, si vous voulez bien, ce chef-d'œuvre de la poésie moderne. Quand las de songer Olympia s'éveille, le printemps entre au bras du doux messager noir. C'est l'esclave à la nuit amoureuse pareille. C'est l'esclave à la nuit amoureuse pareille, qui veut fêter le jour délicieux à voir, l'auguste jeune fille en qui la flamme veille. Poème un peu malarmé, hein, d'ailleurs, par certains accents, et malarmé qui va devenir le grand ami de Manet dans les années 1970, a dû s'intéresser justement à cette conjonction de la peinture et de la poésie moderne. Mais c'est en tout cas un poème qui emploie des mots qui à l'époque résonnent. Le messager noir, effectivement, la servante qui, porteuse du bouquet, annonce le client et réveille en quelque sorte la grande prostituée, la grande horizontale, comme on disait à l'époque. Et puis le mot esclave utilisé de manière très ambiguë, hein, c'est l'esclave à la nuit amoureuse, pareil, la nuit renvoie aussi à la noirceur, à la négritude. Bref, c'est un poème qui encourage une lecture approfondie de l'iconographie du tableau. Lecture d'ailleurs que peu de critiques vont faire avant l'âge moderne. Et d'une certaine manière, ceux qui ont le mieux perçu l'ambiguïté du tableau, sa façon de jouer avec les codes culturels, les codes ethniques, c'est la caricature. La caricature va s'abattre de la manière la plus violente sur le tableau. Je vais vous en montrer quelques spécimens. Et c'est à travers la caricature que nous pouvons, nous, reconstruire la lecture qui sera faite du tableau en 65 et la façon dont certaines ambiguïtés ont été perçues ou non. Mais revenons au jeu que le tableau et l'artiste s'autorisent avec toutes sortes de codes. Un mot d'abord, pardonnez-moi, je vais trop vite en besogne. Un mot d'abord de l'or, mais j'en ai déjà dit ce que nous savons, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a d'abord ce tableau, magnifique tableau, qui est un peu l'équivalent, qui est un peu à Manet ce que la jeune négresse de 1800 est à Madame Benoît. Grande dignité du personnage, accessoires, le collier, la boucle d'oreille, le turban. Elle est moins dévêtue, pas de poitrine découverte, mais elle montre ses épaules, elle est un objet désirable. Et en même temps, elle ne s'offre pas comme pourraient s'offrir certaines femmes dans la peinture du XVIIIe siècle et XIXe siècle pour mieux conforter le désir du spectateur et pour mieux susciter une sorte d'enveloppe érotique. Non, un tableau qui, comme le tableau de Madame Benoît, 50 ans, ou plutôt 60 ans plus tôt, se situe sur la frontière même entre la dignité humaine et le désir que l'on peut susciter dans l'œil du spectateur. Le carnet que je mentionnais, le voilà, il était d'ailleurs dans l'exposition. Il est aujourd'hui à la Pierpont Morgan Library à New York, avec tout un fond de documents concernant Manet. Manet, comme Baudelaire, note dans ses carnets des adresses, des noms, plus que d'ailleurs des impressions et des idées, hélas. Et on trouve, à la page d'ailleurs qui était ouverte dans l'exposition, une référence à cette Laure, très belle négresse, rue Vintimille, 11e arrondissement. Il y a une petite erreur sur mon image. Ma collègue Isolde Pludermacher a fait des recherches dans le cadastre. Elle a également réussi à identifier que l'immeuble où vivait Laure n'avait rien d'un immeuble insalubre. Manifestement, Laure avait atteint, sinon un niveau de richesse, du moins un niveau social qui n'avait rien à voir avec la précarité et la pauvreté dans laquelle on imagine vivre toute la population noire de Paris. Il semble qu'elle ait à la fois posé pour les artistes et eu toutes sortes d'activités, et donc elle n'a pas posé que pour Manet, manifestement. Et Isolde a prouvé également, en travaillant dans les archives de l'École des Beaux-Arts, que parmi les modèles employés et dûment employés, contrat de travail, par l'École des Beaux-Arts, un certain nombre d'hommes et de femmes noires pouvaient être identifiés. Bref, une situation qui, vous voyez, évolue dans le sens que j'indiquais, d'une confrontation finalement qui se multiplie entre les populations noires et populations blanches, et au fond, le studio, plus exactement l'atelier de l'artiste, devient un espace où, effectivement, on se découvre. La population blanche, moi je crois au contact et aux rencontres, et je l'ai souvent dit dans mes travaux sur l'orientalisme français, il y a un orientalisme... Il y a un orientalisme du rêve, qui n'est pas d'ailleurs esthétiquement toujours désagréable, et il y a un orientalisme du contact. Et Manet, grâce à Laure et peut-être à d'autres femmes et hommes noirs de Paris, a découvert finalement un continent qui lui était presque inconnu. Revenons au tableau. Car il me semble que ce dialogue entre la blanche et la noire, au-delà même de la narration auquel le tableau obéit, est peut-être le symbole même de cette rencontre. Car les deux figures sont presque traitées sur un pied d'égalité dans le tableau, même si l'une est la servante de l'autre, même si l'une, Laure, symbolise aussi le rang social de l'autre. Vous avez peut-être lu, comme moi, les carnets de Zola. Quand Zola se prépare à écrire Nana, il va à la rencontre, c'est un homme de terrain, un naturaliste, il va donc à la rencontre des figures de la haute prostitution parisienne, et il note les signes ostentatoires de richesse, comme on dirait aujourd'hui. Et bien, dans le cas de Manet, le fait d'avoir associé à cette jeune prostituée une servante noire désigne, pour le spectateur de 1865, 5, pardon, un certain rang social. Nous ne sommes pas là dans les bas-fonds de la prostitution. Nous sommes là, au contraire, sans doute, chez une courtisane, en tout cas, c'est ce que le tableau suggère. Manet ne dit rien. Le nom même d'Olympia est ambigu. Il pourrait très bien renvoyer à une reine, une déesse de la prostitution, comme à ces prostituées qui aimaient s'affubler de noms ronflants dans le Paris de l'époque. Mais la présence de la servante noire désigne tout de même, en Olympia, eh bien, une prostituée de haut vol. Donc, la présence est symbolique à plusieurs titres. Elle peut l'être, au premier abord, comme la preuve que Manet, d'une certaine manière, a traduit en peinture la découverte, la rencontre de cette femme et de ce qu'elle représente dans le Paris du Second Empire à travers ce dialogue muet entre une domestique et sa maîtresse. À titre de comparaison, et non pas de repoussoir, car c'est un fort beau tableau, je vous montre le tableau que nous avions accroché pour faire plaisir à Françoise Cachin, qui, je suis sûr, a observé de là-haut tous nos agissements, car dans l'exposition de 83, Françoise Cachin avait reproduit ce tableau à titre de peut-être de repoussoir, car elle aimait moins que moi la peinture dite académique. Et il lui semblait que Manet avait peut-être croisé cette image. Effectivement, la composition en chiasme, comme diraient les spécialistes de poésie, avec cette espèce de X, cette confrontation semble s'annoncer en 44 dans cette toilette d'Esther de Bénouville, qui était un pur produit de l'École des Beaux-Arts, un prix de Rome, artiste d'ailleurs très, très estimable, sans que le génie l'ait touché, contrairement à Manet. Mais vous le voyez dans ce tableau-là, il était capable non seulement d'introduire une forme de poésie, de sensualité aussi, une appétence à ce que l'Orient biblique pouvait lui suggérer, et puis déjà quelque chose d'assez touchant et étendu entre le personnage blanc et la figuration de la servante noire. Vous noterez aussi que la servante noire ici est presque dénudée alors que la blanche est revêtue, même si sa tunique blanche révèle l'intimité de ses beautés et que le tableau répond encore à cette codification qui vient du XVIIIe siècle. L'érotisme dans ce qu'il a d'animal, c'est la part de la négresse, et l'érotisme dans ce qu'il a de plus raffiné, c'est au contraire la part de la jeune blanche. C'est d'ailleurs une confrontation qui contamine aussi d'autres espaces, d'autres genres. L'exposition l'a rappelé, les bordels de l'époque proposaient à leurs clients des prostituées noires, et la photographie qui se vendait sous le manteau elle-même mettait en scène ce genre de confrontation pimentée entre la blanche et la noire. C'est le cas de cette extraordinaire photo du célèbre Moulin, qui a eu d'ailleurs maille à partir avec la justice du Second Empire. Mais venons-en justement à cette lecture que propose la caricature à l'époque, car elle va nous permettre de mieux identifier ce qui fait scandale. Je l'ai dit, le premier scandale, c'est d'avoir, bien sûr, peint un tel sujet. Le deuxième scandale, c'est de l'avoir peint comme Manet l'a peint, avec cette forme de réalisme qu'on ne lui pardonne pas. Gautier, Théophile, ira même jusqu'à lui qui fait tous ses efforts pour soutenir la peinture de Manet. Baudelaire, son ami Baudelaire, qui lui a dédié Les Fleurs du Mal, encourage Gautier à soutenir Manet. Il l'avait fait en 61 avec le chanteur espagnol, je l'ai peut-être dit ici, lors d'une séance précédente. En 63, il s'abstient à propos du Salon des Refusés. En 64, il se montre assez généreux à l'égard de la scène de Tauromachie, un petit peu moins à l'égard du Christ. En 65, il jette l'éponge, il ne comprend pas. Il ne comprend pas Olympia, il ne comprend pas pourquoi cet artiste chez qui il sent la capacité de bien faire peint si mal, humilie la beauté humaine à travers les proportions du corps de Victorine, cette façon de ne pas au fond exalter la beauté féminine et au contraire la ramener dans une quotidienneté, dans une réalité qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à admettre, notamment dans la dimension de la peinture d'histoire. Gautier ne reproche pas à Manet d'avoir peint une courtisane, mais de l'avoir peint comme il l'a fait, c'est-à-dire sans, selon lui, une once de concession à la beauté féminine. Il s'en tient à cette aberration. Comment peindre, finalement, aussi mal, de façon aussi déplaisante, un corps humain, alors que tous les salons du Second Empire abondent en nu féminin, en nu plus qu'abreux d'ailleurs, puisque l'idéalisation des formes chez Baudry, chez Cabanel et chez tant d'autres, l'idéalisation des formes permet de mieux introduire une forme, une nuance parfois de presque de pornographie égrillarde dans la représentation des divinités de la mythologie. Pensez à la naissance de Vénus de Cabanel en 63. C'est un tableau qui fait pratiquement, qui semble jeter au spectateur une sorte de clin d'œil complice. Rien de tel chez Manet. Gravité, au contraire, souveraineté de la courtisane qui toise le spectateur tout en appuyant sa main sur son sexe et dans la position. Des déesses de la Renaissance. Tout ça est proprement, comme le dit Gautier, incompréhensible, irrecevable. Qu'en disent les caricaturistes ? Daumier, le grand Daumier, par exemple, en 65, pour le Charivari. Lisez, on va lire, si vous le voulez bien, parce que la caricature, ce n'est pas simplement des formes, c'est aussi un discours. Pourquoi diable cette grosse femme rouge et en chemise s'appelle-t-elle Olympia ? Mais mon ami, c'est peut-être la chatte noire qui s'appelle comme ça. On pourrait gloser longtemps ce qui se dit ici. Daumier joue les naïfs. Il laisse entendre que ce père de famille... ce père de famille et son épouse comme son fils n'ont pas compris qu'Olympia c'était la blanche et non pas la noire. La femme rouge, c'est bien sûr Olympia, non pas parce qu'elle porte cette magnifique tunique rose qui d'ailleurs fait écho à ses boucles d'oreilles, lesquelles boucles d'oreilles d'ailleurs font écho également aux perles qui brillent aux oreilles d'Olympia elle-même. Il y a là aussi tout un jeu d'écho. Dans le tableau de Manet, la femme rouge, c'est bien la négresse. C'est bien une manière désagréable, discriminatoire sans doute aussi, de désigner la servante noire. Et le deuxième moment de la légende, mais mon ami, c'est peut-être la chatte noire qui s'appelle comme ça. Alors là, c'est beaucoup plus délicat à commenter. Mais la légende renvoie à une double réalité de l'image. Le chat noir érectile, comme dirait Daniel Devinck. Mes collègues américains diraient en érection. Je préfère vous dire érectile, c'est plus raffiné. Cette chatte noire, qui effectivement, dans le tableau de Manet, est rapprochée de la servante noire, a été une cause d'étonnement. Mais c'est aussi un indice de la façon dont le tableau se construit. dont le message du tableau se construit par symboles interposés. Effectivement, ce chat est à la fois à l'image de la surprise, il renvoie à l'extérieur du tableau, il renvoie au client qui s'annonce et qui vient de confier à la servante noire un bouquet de fleurs, lequel bouquet de fleurs fait écho aussi au sexe caché de la courtisane. Bref, vous avez ici une sorte de circularité des signes que les modernes ne sont pas les premiers à avoir questionné. Au fond, la critique académique, la critique des journaux, s'en tient à la condamnation d'une forme de réalisme et d'un sujet scabreux, en tout cas un sujet que la peinture ne devrait pas aborder de cette manière-là. La caricature, finalement, est plus fine dans son approche, même si elle reste, elle aussi, du côté de la négativité. Mais cette chatte noire, ce chat qui devient un chat, qui nous dit que ce chat est une chatte et inversement, renvoie à la présence noire très accentuée dans le tableau et bien sûr à sa sexualité latente. Nous ne sommes plus dans l'ordre de l'érotisme, dans la complicité grillarde, nous sommes dans l'ordre de la sexualité tarifée, de la sexualité physique réelle, et non plus dans le fantasme des peintres de salon. Mais il y a pire que Daumier, ou plus drôle. C'est par exemple Bertal, Manette ou la femme de l'ébéniste, par Manet. Ce tableau de M. Manet est le bouquet de l'exposition. Vous voyez qu'on fait feu de tout bois. M. Courbet est distancé de toute la longueur du célèbre chat noir. Le moment choisi par le grand coloriste est celui où cette dame va prendre un bain qui nous semble impérieusement réclamé. Alors là, nous retombons dans ce que l'iconographie raciale et raciste avait de plus détestable. Le corps noir, c'est le corps sale. L'esclave, c'est la femme odorante, mal odorante. Et le bouquet, vous voyez, ici prend la place du sexe occulté. L'image caricaturale est un commentaire du tableau, et un commentaire qui va loin, qui va beaucoup plus loin, finalement, sous le couvert du rire et du jeu de mots, que la critique des journaux de l'époque. Et puis l'ébéniste, le petit ébéniste, ce n'est pas simplement une manière de connoter le noir, c'est une manière de connoter les esclaves noirs. Le commerce de l'ébène, c'était une façon métaphorique de parler du commerce triangulaire. Relisez Dumas, lequel était, vous savez, mulâtre, Dumas père, il parle de ça dans Le Capitaine Pamphile, l'un de ses grands livres où il dénonce la façon dont on empilait les esclaves comme du bois. Bertal à nouveau dans l'illustration. La queue du chat ou la charbonnière des Batignolles. Les Batignolles, c'est cet espace dans Paris, non loin d'ailleurs de l'immeuble où vivait Laure et où l'artiste travaillait, croisait Basile, Monet, Renoir et tant d'autres que l'on retrouvera dans le fameux tableau de Fantin-Latour, l'atelier des Batignolles, en 1870. Les Batignolles, c'est l'espace de la peinture. Voilà ce qu'écrit Bertal, toujours en verve. Chacun admire cette belle charbonnière dont l'eau, liquide banale, n'a jamais offensé les pudiques contours. Disons-le hardiment, la charbonnière, le bouquet dans du papier, M. Manet et son chat sont les lions de l'exposition de 1865. Un bravo senti pour M. Zacharie Astruc. Preuve que le petit poème d'Astruc avait également encouragé la critique et notamment les caricaturistes à faire leur miel de la double présence noire, le chat et la servante. Alors, c'est sans doute l'actualité qui m'a inspiré ce rapprochement, mais en relisant cette légende que je croyais bien connaître, cette charbonnière et le fait qu'elle connote finalement une sorte d'aberration esthétique, et peut-être une manière de faire référence à l'autre monde, à l'antithèse même de l'art de Manet, dans l'esprit en tout cas de ses adversaires, de ceux qui n'ont pas compris qui était Manet, comment il s'était nourri de la peinture italienne, comment lui-même cherchait à la rafraîchir et non pas à abattre la grande tradition venue de la Renaissance. Cette charbonnière fait peut-être écho au tableau de Raphaël d'un côté ou de Léonard, la belle ferronnière, la belle jardinière. Ce sont des termes totalement apocryphes, comme vous savez, mais qui étaient connus de l'époque. Et il se peut que Bertal, avec son génie de la condensation sémantique, est à la fois désigné la négritude à travers la charbonnière, c'est le premier niveau de discours, mais le second niveau de discours, c'est de dire que Manet, à travers son tableau, et plus encore à travers la représentation de la servante noire, se situe aux antipodes de la grande tradition du beau idéal, Léonard, Raphaël. Alors que, on le sait, ces deux artistes, et surtout Raphaël, surtout le monde de Raphaël, a beaucoup compté pour le jeune Manet, et finalement très présent dans le Déjeuner sur l'herbe de 1863. Mais continuons. Le petit ébéniste, nous le retrouvons. Olympia a changé de sexe. C'est désormais un jeune homme qui porte des je sais pas ce que c'est entre la chaussure et la bottine, hein. Elle porte aussi un chapeau. Il porte des gants noirs, comme ma chère Yvette Guilbert. Et puis il y a bien sûr la servante et son grand bouquet. Mais disons, l'importance du bouquet a fasciné les caricaturistes. Ce bouquet était extravagant par son opulence. En tout cas, c'est ce que ces images-là nous disent. Et puis, le chat est toujours en érection. Plus encore même que dans le tableau et que dans les images précédentes. Et la contiguïté à la fois de couleur et de sens est encore plus marquée dans cette image de Cam parue dans le Charivari. Non seulement Manet a suscité une centaine de réactions dans la presse écrite, mais presque une dizaine de caricatures dans cette autre presse aussi intéressante à examiner aujourd'hui que sont ces séries de dessins qui paraissaient soit dans la presse illustrée, soit à part dans des petites publications qui se vendaient très bien à l'époque. Nous retrouvons donc l'ébéniste, le renvoie donc à la condition servile, au monde de l'esclavage, qui était encore dans tous les esprits, bien sûr, en 1865. Monsieur Manet a pris la chose trop à la lettre, que c'était comme un bouquet de fleurs. Les lettres de faire-part sont au nom de la mère Michel et de son chat. Et puis, quand le tableau sera remontré, en 67, vous savez qu'en 67, à l'occasion de l'exposition universelle, Manet va faire chambre à part, comme Courbet l'avait fait en 55, et comme Courbet, d'ailleurs, il recourt à nouveau en 67, et le tableau est à nouveau montré, et suscite les joyeusetés de la caricature. À travers cette caricature de Randon, on franchit une autre étape, on passe de la désignation de la négritude sur tous les modes à la créolité même, puisque c'est un dialogue que Randon imagine entre les deux personnages. Il a bien compris que ce dialogue n'était que muet. Madame, qu'y a-t-il ? Un messier qui l'y vouloit pali madame, pousse à faire, fait entrer. Il paraît que chez certaines dames, c'est comme ça que ça se joue. Alors, ça ne nous fait pas du tout rire aujourd'hui, bien sûr, même s'il faut accepter, je crois, les limites, ou plus exactement, les audaces que se donnaient les caricaturistes de l'époque. En revanche, volontairement ou volontairement, ce petit dialogue assez convenu renvoie, fait écho, à la créolité même du tableau, à cette ambiguïté jamais tranchée, à la fois par les hommes et les femmes de 1865, critiques ou caricaturistes, mais aussi par la critique moderne, puisque l'une des motivations, au fond, de cette exposition consacrée au modèle noir, c'était précisément de se demander ce que Manet avait bien voulu dire en intégrant la figure de la servante. Alors avant de tenter de conclure, quatre images qui vont nous aider peut-être à y voir plus clair et qui surtout prouvent que Olympia a suscité toutes sortes de réactions, certaines très négatives, la plupart négatives. Je n'ai pas le temps d'ailleurs de vous lire les extraits, des extraits de la critique positive. Il y en a eu, car Manet continue à traîner derrière lui le mythe d'un artiste qui n'aurait été admis, sinon compris, de personne. Parmi la centaine de recensions que nous connaissons, trois d'entre elles sont très positives. La plus belle, je ne résiste quand même pas au plaisir de vous la lire, la plus belle vient sous la plume d'Alfred Sancier. Alfred Sancier, c'était l'ami de Millet et son premier biographe, qui écrit sous un pseudonyme, celui de Jean Ravenel, et qui dit ceci. Il parle du lynch, c'est-à-dire du lynchage parisien que subit le tableau, et caractérise de la manière suivante Manet. Cette peinture le désarme un peu, mais le charme aussi. Et vous savez que parmi les artistes, les hommes et les femmes qui étaient les plus proches de Manet, au fond, l'ambiguïté, l'incertitude, le doute était assez fréquent. Berthe Morisot, par exemple, qui reconnaît que la peinture de Manet a un charme fou, reste en partie dubitative devant le balcon où il l'a représenté. Alors voilà ce que dit Sancier en 65. Il parle, à propos d'Olympia, d'une peinture de l'école de Baudelaire, exécutée largement par un élève de Goya, et il rajoute, et un lecteur d'Edgar Poe. C'est pas mal. Je vous parlais de ce groupe des Batignolles, désigné d'ailleurs par Bertal dans une des caricatures. L'artiste, un des artistes qui fait figure d'espoir et en même temps la guerre va, vous le savez, l'emporter en 70, mais aussi un de ceux qui s'intéressent le plus à la question de l'altérité, à la question de l'exotisme et aussi de l'érotisme, c'est Basile, bien sûr, le grand Basile que l'on voit dans l'atelier des Batignolles de Fantin et qui réagit avec cette toilette qui était ailleurs dans l'exposition à l'espèce d'amorce narrative d'Olympia. On y voit à nouveau, même si nous ne sommes plus, à vrai dire, le tableau ne nous permet pas de le savoir de façon catégorique, même si nous ne sommes plus apparemment dans le registre de la prostitution, mais simplement dans celui de la toilette, vieux sujet, puisque, je vous le rappelle ici, un artiste comme Nattier l'avait déjà traité d'une manière, d'ailleurs, qui annonce le tableau de Basile. On y voit des jeunes servantes noires qui entourent et exaltent leur maîtresse blanche. Eh bien, Basile introduit dans une iconographie très assez convenue, bien qu'intéressante, la nouveauté du tableau d'Olympia, c'est-à-dire le réalisme, l'impression d'une présence réelle des corps, et non plus simplement des nus de salon. Et puis il y a cette très belle main, magnifique main de la jeune femme blanche sur le dos de sa servante noire, ce contact physique, proscrit bien sûr par la peinture du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Même Manet d'ailleurs, finalement, n'y a pas recours. Eh bien, Basile franchit le pas en hommage à Manet. Et d'ailleurs, de tous ceux qu'on a désignés comme le groupe de Batignolles, Basile est sans doute le plus proche, avec Renoir, de l'exemple de Manet. Il ira même plus loin. D'après ma collègue Denise Merel, l'une des commissaires du modèle noir, il ira même plus loin dans l'hommage implicite ou explicite à Manet. C'est la femme noire au pivoine eh bien, reconduit en l'isolant le surgissement de la servante noire d'Olympia. C'est cette femme qui désormais ne regarde plus sa maîtresse, mais toise en quelque sorte le spectateur en tendant un bouquet de fleurs, et notamment ces pivoines chères à Manet. Donc il y a toutes sortes d'indices qui permettent d'y voir un hommage, non seulement à Manet, mais à la nouveauté, à l'audace, en termes esthétiques et ethniques, d'Olympia. Et puis, puisque nous parlions d'Edgar Poe, et donc de ces atmosphères un peu fantasques et fantastiques dans laquelle baignent les nouvelles extraordinaires d'Edgar Poe, traduites par Baudelaire. Il y a l'hommage de Cézanne, en 1974, lors de la première exposition impressionniste, Une moderne Olympia, terme, formule extraordinaire, pour dire à la fois l'admiration du jeune Aixois pour Manet et la volonté de dépasser le maître, d'aller au-delà. Scène étonnante, autour de 1870, 71, 72, au moment où Cézanne se rapproche de Pissarro, peint à Pontoise des paysages drus, des paysages parmi les plus solides, les plus physiquement construits de la peinture impressionniste. Il était aussi capable, le même Cézanne, d'imaginer des scènes qui flirtent avec l'onirisme, qui flirtent avec le rêve. Et il se peut qu'ici, il n'ait voulu peindre que, à travers le thème de l'attente, il n'ait voulu peindre que le désir, au fond, de cet homme qui a pénétré dans l'alcôve de la grande prostituée et qui attend son moment. C'est une hypothèse possible, plausible même. Et puis, il y a le commentaire de Manet par Cézanne. Ce n'est plus une servante couverte et recouverte jusqu'au cou, une domestique, comme chez Manet, mais au contraire, un adjuvant érotique, comme dans la peinture du XVIIIe siècle. La très chère est nue, pour citer Baudelaire, nue est Olympia, nue est la servante noire. Nous sommes dans un registre de l'érotisme frontal, de l'érotisme tel que Cézanne, avec toutes ses frustrations, pouvait l'imaginer. Et puis, et ça sera ma dernière image, parce qu'elle me semble résumer beaucoup de choses, il y a cette œuvre de Larry Rivers. Larry Rivers, artiste américain passionnant, que l'Amérique d'ailleurs n'a jamais su vraiment célébrer à la hauteur de son talent. Pas de rétrospective au MoMA, c'est toujours un signe aux États-Unis. Larry Rivers, qui a fréquenté les poètes de la Beat Generation, qui a été soldat, qui a été jazzman, qui appartenait au milieu juif de Brooklyn, et qui a eu la révélation de la peinture au MoMA, quand le MoMA, avant tous les musées européens, avant tous les musées français, a rendu hommage à un certain Bonnard en 1949, quelques temps après la mort de Bonnard. Et il lâche, pas tout à fait d'ailleurs, son saxophone. Il avait joué quand même avec les plus grands musiciens noirs, Miles notamment. Il lâche son saxophone en partie pour devenir artiste et il se fait une spécialité, avant même que ce mode de l'appropriation se répandent dans l'art contemporain, il se fait une spécialité de ses relectures des grands maîtres français, américains ou autres. Et son œuvre la plus fascinante, à mon sens, c'est cette œuvre commandée par la famille Ménil, laquelle s'était battue tout au long des années 60 pour l'égalité des droits civiques aux États-Unis. Et vous savez qu'on vit encore dans un pays qui obéit aux lois de ségrégation. La famille Ménil commande à Larry Rivers cette œuvre, détermine sans doute d'ailleurs son sujet, et surtout l'offre à la France, raison pour laquelle elle se trouve au Centre Pompidou. Et si vous avez vu l'exposition, c'est sur cette œuvre que se refermait le modèle noir du musée d'Orsay. Pour des raisons évidentes. D'abord, il y a la reconnaissance de l'Amérique à l'égard du grand patron, de celui qui a inventé la peinture moderne. Manet, pour les Américains, est véritablement celui qui ouvre l'art moderne, l'art du XXe siècle. Mais il y a plus, dans la mesure où la commande est chargée de sens et que l'artiste lui-même, qui a longtemps, qui a souvent séjourné en Afrique et qui, comme le cinéaste français Rouche, a fait des films quasi anthropologiques en Afrique, il y a évidemment plus qu'un simple hommage de moderne à moderne. Il y a plus qu'un simple hommage d'un artiste moderne des années 60-70 à un artiste qui avait, dans les années 1860, un siècle plus tôt, inventé la modernité. Il y a bien sûr la charge explosive du dialogue que le tableau d'Olympia, en 65, avait instauré en confrontant sur un pied d'égalité, comme je le disais, la servante noire et la courtisane blanche. Et il va jusqu'au bout de cette lecture en chiasse, de cette lecture qui se dédouble, puisque au premier plan, eh bien, un petit peu comme les caricaturistes avaient traité Olympia en petit ébéniste, eh bien, Larry Rivers l'a peint en noir. Le tableau d'ailleurs, l'assemblage, la construction peinte, porte un titre intéressant. I like Olympia in blackface. Le blackface, vous le savez, un événement théâtral qui a fait du bruit dans la France contemporaine nous l'a rappelé récemment. Le blackface, c'était ce masque dont s'affublaient les acteurs blancs pour jouer les noirs. Donc Larry Rivers va très loin. Il a peut-être même compris que Manet avait intitulé son tableau Olympia pour jouer sur ce double discours, pour jouer sur cette ambiguïté, cette dualité qu'on ne finira jamais par trancher, mais qui existe et qui ouvre le tableau à toutes sortes de lectures. Celle de Larry Rivers, c'est celle d'un homme qui, au terme des grandes marches de protestation, des assassinats, de tout ce qui a secoué l'Amérique des années 1960, eh bien, se positionne en faveur, bien sûr, de l'égalité des droits civiques, se positionne en faveur du combat des Noirs américains à travers la lecture qu'il fait de Manet. Et si l'or noircit Olympia dans l'ordre du désir, dans l'ordre de l'éros, Olympia blanchit l'or, comme si Manet et Larry Rivers, de la façon la plus subtile, la plus poétique, nous rappelaient que blanc et noir appartenaient à la même humanité. Merci de votre attention. Thank you.